des livres, votre rendez-vous littéraire vous est présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans L'Idée Livre, votre émission littéraire sur CFM, le samedi à 18h et en rediffusion le mardi à 12h35. Vous pouvez aussi nous écouter directement sur le site de CFM, à L'Idée Livre ou en podcast quand vous le souhaitez. Aujourd'hui, un roman qui gigote et qui danse, dont nous vous parlerons avec Monique. Bonjour Monique.
Bonjour Fred.
Et avec Joël de la librairie La Folle Avoine. Bonjour Joël.
Bonjour Fred.
Le deuxième épisode d'une chronique qui rend hommage à une femme. Aujourd'hui, c'est important, Jeanne de Rouen, nous sommes le 8 mars, combattante féministe de la première heure. Ça tombe bien, donc, et aujourd'hui, nous allons parler d'un roman qui rend aussi hommage à une femme avec un brin de folie. On va placer cette émission sous le signe des femmes, quelles qu'elles soient. Celle-là est un peu particulière, elle a réussi à ensorceler un homme qui est tombé fou amoureux d'elle. Et dans En attendant Blue Jungles de Olivier Bourdeau aux éditions Finitude, on va avoir cette histoire d'amour qui est racontée par un petit garçon, leur petit garçon. Et c'est une histoire extrêmement fantaisiste, facétieuse, et qui a été écrite par un jeune auteur, c'est son premier roman, 1980, il est né, donc il a 35 ans. Il a dit que c'était la première réussite de sa vie, je l'ai entendu dire ça, après oui. Une succession d'échecs. Et ce livre connaît un grand succès de librairie, donc si vous n'en avez pas encore entendu parler, nous on va essayer de vous expliquer pourquoi il nous a plu aussi. Alors donc d'emblée, le livre nous entraîne dans un univers très fantaisiste, ce que je disais tout à l'heure, où les choses les plus simples deviennent des événements extraordinaires, parce qu'aucun des personnages ne veut se faire à la banalité des choses. Alors ça, c'est plutôt bien. Et l'enfant, donc le petit garçon, raconte l'histoire d'amour folle qui unit ses parents, avec une façon qui rend les choses, un peu la vie en rose, on va dire. C'est Olivier Bourdeau qui était interviewé dans une émission de radio et qui disait que l'enfant voyait la vie avec des lunettes roses. La mère, elle est extrêmement excentrique et chaque jour, son mari lui donne un autre prénom. Et là, je cite, « Chaque matin, après avoir reçu son prénom quotidien, elle me confiait un de ses gants en velours fraîchement parfumé pour que toute la journée, sa main puisse me guider. » C'est une femme qui a beaucoup de poésie, beaucoup de gaieté, mais aussi des larmes qui coulent parfois. Et au fur et à mesure du livre, il y aura peut-être de plus en plus de larmes, de moins en moins de rires, même si ils vont essayer de rester sur le mode du rire, mais on va marcher de plus en plus près du gouffre. Et en fait, l'histoire est racontée, l'enfant voit ce que les parents veulent bien lui montrer, parce qu'ils ont, enfin là je cite encore la mère, elle dit « Quand la réalité est banale et triste, inventez-moi une belle histoire, vous mentez si bien, ce serait dommage de s'en priver. » Et c'est ce qu'elle dit à son fils. Alors son fils lui raconte une journée imaginaire. À l'école, il raconte une histoire, et quand il rentre chez lui, il en raconte une autre.
Ce sont les mensonges à l'endroit et à l'envers.
Voilà. Alors, on danse partout, d'où le titre, En attendant Blue Jungles.
Oui, préciser aussi, oui, peut-être que, justement, Mr. Blue Jungles, c'est une chanson de Nina Simone. Mmh. Et un petit clin d'œil avec ce En attendant 2, En attendant... On peut penser à En attendant Godot. Donc, on n'est pas tout à fait dans l'absurde là, c'est pas ça. Mais on est quand même un petit peu à la marge. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans cette histoire, c'est que, bon, c'est une histoire de folie, mais qui est racontée avec folie, mais en même temps avec beaucoup de délicatesse et de pudeur, beaucoup de tendresse. Et dans la construction du livre, en fait, on a les deux points de vue. On a le point de vue du petit garçon, qui voit ses parents dans cette espèce de fête permanente. Et puis, le père, puisque c'est à travers les carnets du père que l'histoire est écrite.
Deux styles d'écriture, d'ailleurs. Oui. Parce qu'il y a l'enfant qui raconte très naïvement, enfin, dire fausse naïveté, mais il y a des sens... les mots sont pris souvent au sens littéral, il joue avec les oxymores, quand c'est le petit garçon qui raconte. il a tendance à utiliser toujours des mots et son contraire. Et quand c'est le père qui raconte la mère, il la raconte avec l'œil de l'homme amoureux. Ils ont fait des très très belles descriptions de ses cils, de sa bouche, de son corps. Et de ce qui l'a séduit chez elle, cette espèce de grande... Oui, de détachement des choses du monde. Alors, il y a quelques exemples qui sont... c'est très marrant. Hein. Ils ont décidé de plus jamais ouvrir le courrier parce que ça l'embêtait. Ils ont fait un gros tas.
Un matelas.
Ils ont fait un matelas sur lequel ils sautent régulièrement. Toutes les personnes qui les entourent sont baptisées de noms extrêmement poétiques. Il y a... l'ordure, on ne peut pas dire que ce soit très poétique, mais c'est le nom d'un personnage important du livre. C'est un sénateur qui veut manger jusqu'à ce qu'une assiette tienne sur son ventre. Ils ont aussi un oiseau domestique qui s'appelle Mademoiselle Superfétatoire. Quand ça ira très mal et que la mère sera mise à l'hôpital, il y aura une personne qui s'appellera Bulle d'air parce qu'elle passe sa vie à claquer des bulles d'air sur les paquets d'emballage. Bon, alors dans le style, c'est écrit. On va dire que c'est assez simple, comme ça se dévore ce livre et on est forcément séduit parce que je crois qu'on rêve tous à un moment dans sa vie d'avoir ce
brin de folie.
On rêve de plus ouvrir le courrier, on peut dire.
Mais là, c'est étrange aussi dans la construction, la manière dont c'est écrit, puisque ça commence vraiment de façon très très légère, très aérienne. Tout est beau, tout est festif, et puis petit à petit, le glissement va se faire jusqu'à l'inéluctable. Et le rôle du père, c'est de maintenir tout ça le plus longtemps possible, quoi. Et ce mensonge, il va le garder ou essayer de le garder jusqu'au bout. Et moi, ça m'a beaucoup rappelé La vie est belle.
Voilà.
Cette histoire de mensonge, où j'ai oublié le prénom du héros, là, fait croire à son fils que les camps de concentration, c'est un grand jeu. Et là, c'est pareil, cette folie, c'est un grand jeu. Sauf que, à un moment, le jeu va déraper.
Mais on peut l'humour, on peut dire que l'humour là-dedans est une arme contre le drame, comme dans La vie est belle. On peut aussi noter la très belle couverture de Valérie Kachaïev, qui représente un couple enlacé et qui donne, on l'imagine,
une idée du tango.
Voilà, une idée de la façon dont dansait ce couple sur En attendant Bojangles, au bord du gouffre, de Nina Simone, dont les paroles vont très bien avec le livre. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants, the old soft shoe. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched down. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age as he spoke right out. Life. He laughed and slapped his leg as death. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Said his name, Bojangles, then he danced the lick across the sand. He
grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. Danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 15 years, how his dog and he traveled about, his dog up and died. Up and died. After 20 years, he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. He said, I dance now at every chance and honky-tonks for drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. He said, I drink a beer. He shook his head. As he shook his head, I heard someone respectfully ask, please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.
Oui, le hasard est un coquin qui nous fait enregistrer cette émission le 8 mars, car Jeanne de Roing est une pionnière dans la lutte pour l'émancipation des femmes. Et quand vient la révolution de février 1848, elle a déjà une longue expérience de réflexion et d'action pour ne pas être prise au dépourvu. En effet, encouragée par les espoirs de la Révolution de 1830, elle avait, tout comme Eugénie Nigoyer et Pauline Roland, rejoint les Saint-Simoniens, où elles ont pu affiner le sens du mot « égalité » chez ces communistes utopistes. Puis, elles se sont rapprochées d'autres utopistes, comme Fourier ou Cabet, et avec le renfort de Désiré Gay, elles se sont exprimées dans leur périodique, l'opinion des femmes. Mais dans la vie de chaque jour, pour lutter contre l'ignorance, rien de tel que d'ouvrir des écoles. Alors Jeanne de Roing et Pauline Roland se sont faites institutrices. En février 48, le peuple est dans la rue. Le roi abdique et un gouvernement provisoire est proclamé. Ce gouvernement provisoire décrète la République, le droit au travail et le suffrage universel, mais il oublie une moitié de l'univers et les femmes ne sont pas comprises dans le droit de vote. La presse est libre, les clubs se multiplient et le quotidien La Voix des Femmes est le porte-parole de Jeanne de Roing et d'Eugénie Nigoyer. Mais c'est à la commission du Luxembourg, dirigée par Louis Blanc, que va se focaliser tout l'esprit de 48. Chargée de recueillir les doléances populaires, elle devient cette commission une véritable fournaise où toutes les revendications viennent aboutir. en pétition ou alors en délégation. Pour la première fois, peut-être, des femmes élisent leurs représentantes, elles y prennent goût, lorsqu'il s'agit d'élire la constituante. Jeanne de Rouyn est secrétaire générale du Club des femmes. Les femmes doivent donc avoir une représentante, il le faut. Alors, Pauline Roland, elle refuse, elle ne veut pas participer à cette mascarade. Donc on pense à George Sand, et George Sand est sollicitée, mais elle a l'impression d'être manipulée, donc elle ne veut pas être récupérée, et elle se récuse. Donc il reste Jeanne de Rouyn. Jeanne de Rouyn relève le défi et parcourt les clubs et pour faire accepter sa candidature. C'est anticonstitutionnel, puisque les femmes n'ont pas le droit ni de voter ni d'être élues. Sans aucun succès et sans se décourager, elle poursuit sa mission avec Pauline Roland dans l'association des institutrices socialistes qui, en quelques mois, a le temps d'élaborer un programme pédagogique ambitieux de la crèche jusqu'à 18 ans, qui doit être suffisamment moderne parce qu'il y a un certain nombre de crèches encore qui s'appellent maintenant Jeanne de Rouyn. Et quand survient la contre-révolution de juin 48, Napoléon le Petit est déjà président de la République et veut parfaire son pouvoir. C'est pourquoi il convoque des législatives en avril 49. Jeanne de Rouyn n'hésite pas et se présente et le fait savoir. Elle devient la cible des chansonniers, des humoristes et même Proudhon est hostile à cette candidature. Proudhon, de toute façon, qui était contre l'égalité homme-femme. Donc elle va dans les meetings, elle rencontre des réactions diverses et elle est parfois bien accueillie. Et en fait, elle réussit à glisser sa candidature entre quelques candidats, d'autres candidats, et elle obtient 15 voix. Mais pour elle et pour les femmes, c'est une victoire puisqu'elle s'est présentée et donc elle a eu quelques supporters. L'association est interdite. Bon, elle continue le combat, mais elles sont arrêtées, vont en prison. Jeanne est exilée, s'exile en Angleterre, et Pauline Roland, elle, est bannie en Algérie, où elle va être très malade et rentrer agonisante et mourir en France. Victor Hugo lui a rendu hommage dans un poème des châtiments, un poème qui s'appelle donc Pauline Roland. Sur la musique du Chant des Marais, composée dans les camps de concentration en 1933, l'hymne des femmes par la compagnie Jolie Môme.
Levons-nous, femmes esclaves. connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le monde, femmes esclaves, méprisons nos entraves. Tabou, tabou, reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout.
Donc aujourd'hui, nous vous avons présenté En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau aux éditions Finitude. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire un petit morceau qui concerne justement le courrier dont on parlait tout à l'heure. Dans un coin du hall, il y avait une montagne de courriers que mes parents avaient constituée en jetant, sans les ouvrir, toutes les lettres qu'ils recevaient. La montagne était si impressionnante que je pouvais me jeter dedans sans me blesser. C'était une montagne joyeuse et moelleuse qui faisait partie du mobilier. Parfois, mon père me disait « Si tu n'es pas sage, je te fais ouvrir le courrier pour le trier. » Mais il ne l'a jamais fait. Il n'était pas méchant. Voilà, donc Joël nous a parlé de Jeanne de Rouen en cette journée de la femme, le 8 mars donc. Et merci à Mathias qui était à la technique. Au revoir Monique, au revoir Joël. Et à bientôt.
L'idée livre, votre rendez-vous littéraire, vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-d'Orouergue.